Vous êtes toujours dans le magazine. Et maintenant, on va parler d'une maison d'édition qui s'appelle Petit Matin de Novembre. Et on a Assia au téléphone.
Ouais, salut Assia, tu nous entends ?
Bonjour, je vous entends très bien, et vous ?
Ouais, carrément, bienvenue sur Canal Sud. Alors effectivement,
merci.
On va parler de cette maison d'édition PMN, Premier Matin de Novembre, édition...
Premier,
oui, pardon. Premier Matin de Novembre,
pardon.
Édition offensive et populaire. Peut-être pour commencer, nous dire un petit peu c'est quoi l'origine de cette maison d'édition qui a déjà quelques années, mine de rien, et un peu la philosophie du projet.
Exactement, ça a quelques années, ça a 2-3 ans maintenant, mais jusqu'à là on n'avait pas sorti de publication de livres, on n'avait fait que travailler sur des brochures. Et du coup là, on va pouvoir publier très bientôt nos premiers livres, du coup d'où cette interview. Et voilà, on travaille principalement sur des textes décoloniaux, anticoloniaux. On a pour but de remettre en lumière des textes qui n'ont jamais été publiés en français ou qui n'ont jamais été traduits en français. Du coup, ça va de des textes des Black Panthers dans l'Amérique raciste, à des textes de Palestine, à des textes algériens. La principale ligne, c'est la ligne anticoloniale, pardon. Voilà.
La ligne anticoloniale. Rapproche-toi bien du téléphone parce que ça fait le son fait des vagues. On t'entend bien et puis d'un seul coup, on t'entend moins bien. Alors donc.
Ok, ça marche.
Voilà. Alors ça, c'était. Tu dis 2-3 ans. Tu dis que vous sortez vos premiers livres. En réalité, vous avez déjà fait quelques sorties de bouquins, mais peut-être de manière un peu artisanale. C'est pour ça que tu parles de premiers livres maintenant.
En fait, on a sorti des brochures. On a sorti des brochures qu'on a fait graphier nous-mêmes à la main et qu'on a imprimé pour faire des petites parutions à la main. Mais là, on va passer à nos premiers livres imprimés de façon classique, éditoriale, avec un distributeur, un imprimeur, en librairie. Et du coup, ça y est, on se professionnalise.
Oui, vous vous professionnalisez et du coup, forcément, tout ça a un coût. Alors, avant d'en parler, j'aimerais bien savoir, justement, on parlait du nom Premier Matin de Novembre. D'où ça vient ce nom ? Pourquoi cette appellation ?
Yes, c'est en référence au 1er novembre 54, à la Toussaint Rouge ou la Toussaint Sanglante, comme on appelle dans l'histoire algérienne. C'est la date que choisissent les cadres du FLN pour entrer en lutte armée. Et c'est la date qu'on a en référence quand on parle de la guerre d'Algérie. C'est la date où choisissent les Algériens pour rentrer en lutte armée. Du coup, c'est une référence dans le monde anticolonial et c'est aussi une référence pour nous. Du coup, on a choisi de prendre ce nom en référence. Ça existe pas mal aussi dans la poésie algérienne. Les premiers matins de novembre, c'est assez épique de l'histoire algérienne. Du coup, c'est pour rendre hommage.
Voilà, et c'était du coup pour inscrire d'entrée votre projet là de maison d'édition dans cette histoire anticoloniale. On sent là dans les, on va en parler là maintenant des livres à sortir dans l'année à venir, hein, le programme 2017-2018. On sent qu'il y a une grosse volonté historique, hein, de remettre en lumière une histoire anti-impérialiste, anticoloniale.
Absolument. Mais c'est vrai qu'en France, il y a pas beaucoup, alors contrairement au monde éditorial, par exemple aux États-Unis ou en Allemagne ou en Espagne, il y a pas beaucoup de livres sur le monde, sur l'histoire des coloniales, sur l'histoire des colonies, sur l'histoire des gens qui se sont soulevés. Et du coup, on a fait un peu ce constat et on s'est dit que en fait, c'était la ligne qu'on voulait adopter parce qu'on aurait pu avoir une ligne anti-impérialiste plus large. Ou anticapitaliste plus large, ou tu vois, questions féministes et tout. Et on a trouvé qu'il y avait un creux, en fait, et du coup, on s'est dit que c'était la petite niche dans laquelle on allait se poser. Et voilà.
Ouais, il y avait un trou à combler, un vide à combler.
Ouais, absolument.
Alors, bah, du coup, si on t'appelle et si on parle de Premier Matin de Novembre, c'est comme tu l'as dit que là, vous vous apprêtez à sortir vos premiers livres en vrai, entre guillemets, même si ça veut rien dire, mais en tout cas de manière impression, etc. etc.
Ouais.
Donc, il y a 4 ouvrages prévus à partir de septembre 2017 et jusqu'en septembre 2018 pour l'année à venir.
Mais il y en a 4 annoncés, en tout cas, qui sont sur terminés, posés, qui sont prêts.
Oui, c'est ça, c'est les 4 prochains, ça ne sera pas les seuls, évidemment. Voilà. Alors, et du coup, pour ce faire, vous faites un appel à financement participatif, hein, les crowdfunding, comme on dit, sur le site kisskissbankbank.com. Avec, alors, il reste un peu moins de 2 semaines, hein, pour y participer.
Ouais, c'est ça.
Avec un objectif de 3 500 €. Alors, qui serviront, si j'ai bien compris, en fait, à imprimer le premier livre. Et après, l'idée, c'est d'avoir un fonds de roulement. Et le premier livre financera
Exactement.
Le deuxième, qui financera le troisième, etc.
Exactement, c'est ça. C'est 3 500 € qui correspondent aux impressions, au transport et aux distributions du premier livre. Et après, on fonctionne sur les rentrées d'argent du premier livre qui servent à payer le deuxième livre, etc., etc., comme ça, en roulement. Nous, on travaille de façon totalement bénévole et indépendante. Du coup, on n'a pas de subvention, on ne se paye pas. Du coup, c'est uniquement pour payer les impressions et créer ce petit fonds de roulement dont on parle là, exactement.
D'accord, ben on va en parler du coup. Évidemment, on mettra sur le site de Canal Sud, on mettra le lien vers la page et l'appel à financement participatif. Je vous l'ai dit, hein, il reste 13 jours exactement si vous voulez participer. Bon, ce qui est pas mal en plus dans les appels à financement participatif pour les maisons d'édition, c'est que derrière, bah t'as un bouquin, quoi. C'est pas juste.
C'est qu'en fait, c'est que tu donnes pas de l'argent en voyant rien du tout. C'est que tu précommandes ton bouquin en fait.
Ouais,
du coup, tu payes à l'avance le bouquin que tu recevras à la sortie chez toi.
Voilà, c'est ce qu'on appelait une souscription avant. Bon voilà, maintenant ça s'appelle crowdfunding. C'est un peu plus 2.0. Alors, on va parler un petit peu de ces quatre livres et on va commencer par le premier. Mohamed Boudia, œuvre, écrit, politique, théâtre et poésie, 1962-1973. Un mot quand même sur Mohamed Boudia, qui est un écrivain algérien.
C'est un écrivain, c'est un militant anticolonial, c'est un homme de théâtre et de poésie, c'est un militant pro-palestinien aussi. C'est un homme qui est vu comme un héros dans le monde arabe, à la fois au Maghreb et au Moyen-Orient, et qui est complètement méconnu en France. En tout cas, qu'il n'était pas trop dans les... qu'il était assez connu dans les 70 parce qu'il avait œuvré en France, mais qu'il n'est plus du tout maintenant aujourd'hui. Qui a complètement disparu, et même de tradition militante anti-impérialiste, alors qu'il a un parcours assez exceptionnel. C'est un militant qui s'est engagé en 1954 à la guerre d'Algérie dans le camp du FLN, qui a œuvré sous le FLN à la lutte de libération, qui était un agent en France du FLN. Du coup, c'était le but de transposer la guerre d'Algérie en France aussi. Du coup, il a fait des actions, notamment l'action la plus connue, c'est l'action à Marseille contre une pipeline pour laquelle il a été condamné à 20 ans de prison, un attentat. Il a ensuite bougé, traversé le monde des actions directes européennes dans les 70. Puis il s'est engagé auprès du FPLP, donc il a été militant pro-palestinien, il a été dans le
FPLP, oui, Front Populaire de Libération du Peuple Palestinien, oui, pour ceux qui ne savent pas, donc une des composantes de la résistante palestinienne, ouais.
Exactement, il a été responsable des actions en Europe pour la Palestine, notamment Septembre Noir, et il est mort en 73. À Paris, tué par le Mossad. Et ce qui est exceptionnel dans son parcours, c'est qu'à la fois c'est un militant entier, implacable des causes décoloniales, mais en plus c'était en même temps un homme de théâtre, il était un dramaturge, il écrivait des pièces de théâtre, il a monté des pièces de théâtre en prison pour indiquer l'importance des luttes de libération. En fait, c'est un parcours assez exceptionnel. Et du coup, le bouquin là dont on parle, c'est à la fois un regroupement de ses œuvres complètes, les œuvres connues, du coup des pièces de théâtre, des écrits politiques, et c'est aussi il y a aussi dedans une introduction historique de qui est cette personne, et c'est assez exceptionnel comme parcours, c'est assez éloquent.
Alors 73, tu disais il est assassiné par le Mossad, donc c'est la fin, mais les œuvres écrites politiques, théâtre et poésie là que vous allez publier commencent en 62. Est-ce à dire qu'il a pas trop écrit avant, ou qu'on n'a plus de traces de ses écrits d'avant 1962?
C'est ça, c'est que avant 62, il était engagé pleinement dans la guerre d'Algérie jusqu'à sa libération, et du coup il y a pas d'écrit de son nom en fait. Il y a des écrits politiques qui existent de ces groupes dans lesquels il appartenait, il n'y a pas de son nom. Du coup, on ne peut pas lui attribuer, en fait.
De manière formelle, d'accord. On va s'écouter le teaser que vous avez sorti, puisque pour chacun de ces bouquins, il y a un petit teaser. On va s'écouter le teaser donc de ce premier ouvrage édité, prévu pour septembre 2017, aux éditions Premier Matin de Novembre, de Mohamed Boudia, œuvre, écrit politique, théâtre et poésie.
Il faudra longtemps pour que le fusil crie bonheur. Et pourtant, longtemps encore, le fusil et tout ce qui brise, qui brûle, animeront nos muscles, avides de serrer l'amour une fois pour toutes.
Chef de l'organisation terroriste Septembre Noir en France. Les milieux arabes de Paris estiment que l'explosion de sa voiture entre dans le processus des attentats déclenchés.
Le 26 juin 1973, à Paris, rue des Fossés-Saint-Jacques, l'écrivain et militant révolutionnaire algérien Mohamed Boudia était lâchement assassiné par un commando sioniste. Cela, nous le savons.
Voilà donc le teaser réalisé par, par vous-même, hein, par les
Exactement,
éditions.
Exactement, par un ami à nous qui travaille aussi à PMN, qui s'appelle Dario, qu'on salue.
Voilà,
qui sont, vous... Les teasers qui sont à retrouver sur le site de PMN,
pmnedition.com, et il y a un teaser pour chacun des bouquins, hein, vous soignez votre com.
Absolument.
Tiens, c'est peut-être le moment d'ailleurs de parler un petit peu forme plus que fond, parce que c'est vrai que les quelques livres que vous avez sortis, dont tu as déjà parlé, hein, de manière un peu plus artisanale, avec notamment des couvertures sérigraphiées, étaient quand même des beaux objets, hein, avec des jolies sérigraphies, etc. Comment vous allez travailler aussi un petit peu la forme là, pour vos premières sorties en impression professionnelle, comme tu disais tout à l'heure?
Nous on n'a pas eu souvent l'occasion de sortir des bouquins, du coup on s'attache à ce que ce soit un peu joli quand même, on se fait plaisir. Du coup c'est effectivement sur les premières brochures qu'on avait sorti, les brochures à la main, on avait travaillé avec Elios qui est un graphiste qui travaille pour les éditions Béton Armé, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les éditions qui sont chez Libre Conscient. Et il nous faisait les images et on les travaillait à la main ensuite. Et là, pour les prochains bouquins qui arrivent, on travaille aussi avec un graphiste qui travaille sur des jolis portraits de couverture. Et on essaie de s'attacher à faire des bouquins qui soient jolis, à mettre des photos en plus sur les pages qui sont libres. On essaie de s'attacher un peu à l'esthétique quand même, effectivement.
Et à l'objet, d'accord. Alors les bouquins, donc on l'a dit, il y a le premier en septembre, sera consacré aux écrits de Mohamed Boudia. Ensuite, en décembre, donc ça enchaîne assez vite quand même, hein. En décembre, vous projetez de sortir Le suicide révolutionnaire de Huey Newton. Donc Huey Newton, on le sait, hein, c'est un des membres éminents de l'organisation Black Panther Party.
Donc, le co-fondateur, absolument.
Voilà. C'est quoi ce bouquin du coup?
C'est le bouquin, alors c'est son autobiographie, c'est lui-même qui l'a écrit. Et du coup, ça raconte tout son passage de son enfance à la constitution du Black Panther Party, à sa passage en prison et à sa sortie. C'est à la fois un bouquin autobiographique et aussi un bouquin d'analyse politique de la situation en Amérique à cette époque-là. Et ça n'existe pas en France, c'est la première traduction, elle n'existe pas.
Oui, c'est assez incroyable,
c'est clair.
C'est assez incroyable, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a plein de bouquins qui n'existent pas alors que ce sont des références dans le monde politique et historique. Et du coup, ce sera la première traduction.
Première traduction, comment vous faites pour assurer les traductions? C'est vous-même qui les assurez, du coup
Il y a une partie, par exemple pour le Newton, c'est nous qui avons traduit, et en fait on a été ensuite corrigé par plusieurs autres traducteurs qui ont l'habitude de travailler sur d'autres bouquins. Et par exemple pour le quatrième bouquin dont on parlera tout à l'heure, c'est un autre collectif qui se charge de la traduction.
D'accord. Oui, on va en parler, on va enchaîner. Alors donc du coup, Le suicide révolutionnaire, l'autobiographique donc de Huey P. Newton, ça c'est pour décembre 2017. Et ensuite pour mars 2018, l'idée c'est de sortir un livre de Mathieu Rigouste qui s'intitule Un seul héros, le peuple.
Exactement. Ça raconte. C'est le prochain livre de Mathieu Rigouste. C'est une vraie étude sur plusieurs années qu'il a opéré.
Pas besoin de traduction, du coup, là, c'est en français.
Pas besoin de traduction, là, c'est parfait. Il nous donne le livre, on le publie. Il travaille sur décembre 60. Et c'est assez impressionnant comme moment historique aussi de la guerre d'Algérie. c'est un soulèvement populaire qui écrase une armée, en tout cas en l'occurrence l'armée française, la quatrième puissance mondiale à l'époque. Et du coup, ça explique comment c'est possible qu'un peuple, en colère, un peuple qui se soulève, écrase une armée. Et c'est très peu connu de l'histoire anticoloniale en France, alors que c'est très connu dans le monde arabe. Et c'est une analyse assez poussée, comme il le fait à chaque fois Mathieu. C'est à la fois une analyse historique, sociale, économique, et c'est à découvrir. Ouais, il y a aussi un petit teaser sur le site.
Ouais, il y en a un pour chacun.
Quelques images.
Il y en a un pour chacun des ouvrages. Mathieu Rigousse qui a passé pas mal de temps à bosser sur le sujet.
Alors, plusieurs voyages en Algérie, des rencontres avec des témoins de l'époque, et du coup à l'occasion de cette sortie de bouquin, il y aura aussi à la fois un site et un petit film où il y aura des entretiens qu'il a opérés et voilà, et toutes les archives sont répertoriées sur un site. C'est un travail complet.
Travail complet, un seul héros, le peuple, ça c'est prévu pour une sortie en librairie en mars 2018. Et enfin, le dernier de cette saison, on va dire, parce qu'évidemment après il y a d'autres projets, Assata, une autobiographie, c'est une autobiographie d'Assata Shakur. Ça c'est prévu pour
septembre 2018, ancienne membre du Black Panther Party, membre de la Black Liberation Army, qui est toujours recherchée actuellement par le FBI, qui est considérée comme la femme la plus recherchée, la plus dangereuse pour le FBI actuellement, qui Donald Trump il y a quelques jours a encore demandé à Cuba son extradition, parce qu'en fait elle est exilée politique à Cuba. Elle n'est pas morte, elle existe toujours. Et c'est son autobiographie, c'est elle-même qui l'a écrite, c'est la première traduction française.
Encore une fois, oui, Duke, tu disais, traduction réalisée par un collectif de militants et avec une préface d'Angela Davis. Alors, on voit là qu'il y a, donc sur ces quatre livres à venir, il y en a deux qui vont traiter de la question algérienne, et notamment, alors même si Mohamed Boudia, tu l'as dit, hein, il n'a pas travaillé que sur l'Algérie, et il y en a deux qui traitent de la lutte des Noirs américains, des Afro-américains, notamment... à travers quand même deux figures des Black Panthers, des Panthères noirs. C'est-à-dire que vous allez rester un peu sur ces deux thèmes-là, ou est-ce que vous avez envie d'ouvrir après à d'autres expériences anticoloniales et décoloniales?
Ah non, nous, notre but, c'est vraiment d'explorer un champ qu'on assez inconnu en France. Et du coup, effectivement, on a commencé par des gens qui étaient assez connus. C'est aussi une méthode éditoriale. Pour se faire connaître, si on commençait par des gens qui étaient complètement inconnus, ça allait être un peu compliqué. Mais notre but, c'est vraiment de s'ouvrir. On a comme projet un livre sur Abdelkrim El-Khattabi, un anticolonialiste marocain du début du siècle. On a un autre livre en projection sur les Young Lords, un autre groupe américain. Qui traite la manière des Black Panthers, mais sur les Chicanos. Et en fait, on a quelques projets encore qui arrivent comme ça, qui sont assez ouverts à d'autres histoires décoloniales ou anticoloniales qui arrivent. Et voilà.
Et vous allez vous attaquer aussi au néocolonialisme? Vous projetez un peu de vous attaquer
au colonialisme actuel,
ouais, voilà, ouais.
J'ai pas entendu, excusez-moi.
Est-ce que vous projetez de vous attaquer un peu au colonialisme actuel sous toutes ses formes, ou vous restez dans le...
Ouais, ouais, ouais. On s'intéresse pas mal à l'histoire de ce qu'on appelle les dom-toms.
Ouais,
du coup, on aimerait bien sortir un bouquin sur ces questions-là, sur ces histoires-là. Effectivement, parce qu'on a très peu aussi.
Ouais, c'est ce que j'avais en tête en posant cette question, c'était sur les dom-toms. Ouais.
Ben moi, ta question me fait penser aussi au colonialisme intérieur, qu'on peut voir, on en reparlera tout à l'heure avec Badiou et Bellefontaine, mais... qu'on voit notamment dans les quartiers populaires en France. Est-ce que vous avez un peu des pistes là-dessus ou...
On n'a pas vraiment de pistes, mais c'est des champs qu'on ne s'exclut pas. Hein. Nous, on veut aborder toutes les questions qui sont des questions coloniales. Et effectivement, les colonies intérieures, les banlieues, les quartiers populaires, toutes les luttes qui émergent autour, et notamment sur les violences policières, nous intéressent beaucoup. On s'approche beaucoup, tout en plus que nous, on est aussi militants politiques. Du coup, on n'est pas juste éditeurs dans nos petits salons, tu vois. On est aussi militants politiques. Du coup, c'est ce qui nous touche, sur lesquels on s'engage et ce qui nous touche. Et effectivement, on a des pistes de réflexion, de travail autour de ces questions-là.
Et malheureusement, c'est un vaste sujet, quoi.
Absolument,
inépuisable. Voilà, les éditions PMN, premier matin de novembre, avec donc ces quatre premiers ouvrages à sortir entre septembre 2017 et septembre 2018. Mais pour ça, il faut de la caillasse, du pognon, du flouze, du pèse. Et donc, évidemment, il y a un appel à financement participatif. Mais comme on le disait, quand il s'agit d'édition, c'est presque une souscription. Hein. Vous achetez votre ou vos bouquins à l'avance. C'est sur le site kisskissbankbank.com avec un objectif, je crois qu'on est à 30% à peu près là. Donc, il reste.
Ouais, on a un peu plus de 1000 balles là et notre objectif c'est 3500.
D'accord, il reste un peu moins de 2 semaines pour ça. Tu vas redonne-nous l'adresse pardon web de la maison d'édition.
Et alors c'est PMN édition sans accent avec un S à la fin .com tout attaché.
Tout attaché et évidemment on mettra tous ces liens sur notre site web. Merci Assia.
Merci à vous.
Et à très bientôt. On espère que vous reviendrez, toi ou d'autres, parler voilà, quand les livres sortiront réellement. Exactement.
Sur chaque bouquin.
Merci Assia. J'en profite pour dire, puisque on parlait d'Abdelkrim, là, Assia parlait à l'instant d'Abdelkrim, hein, que Abdelkrim, donc grande figure du Rif marocain, fondateur de la République du Rif dans les années 20, qui a affronté le colonisateur espagnol et le colonisateur français avec quelques succès avant évidemment de se faire déployer sous la force des armées qu'il avait en face de lui. Et il faut dire aussi que ces armées ont utilisé des armes chimiques et de l'aviation lourde, hein, face à une armée qui était composée essentiellement de paysans du Rif. Et bien cette figure d'Abdelkrim, elle est encore assez populaire dans le Rif aujourd'hui et elle est omniprésente dans le mouvement de protestation qui a lieu actuellement et qui ne faiblit pas dans le nord du Maroc, entre autres, hein, dans le Rif, le Hirak. H-I-R-A-K. On en a parlé longuement hier dans le magazine, une émission qu'on vous pourrez retrouver sur canalsud.net dans l'après-midi. Voilà le podcast à venir.
Et on se quitte avec un peu de musique, c'est Public Enemy, Rebel Without Pause.
Brothers and sisters! Brothers and sisters! I don't know what this world is coming to!
Yes, the rhythm, the rebel, without a pause, I'm lowering my level. The hard rhyma, where you never been, I'm in. You want styling? You know it's time again. D, the enemy, telling you to hear it. They praise the music, it's time to play the lyrics. Some say no to the album, the show, bum rush the sound. I made a year ago, I guess you know, you guess I'm just a radical. Not on sabbatical, yes, to make it critical. The only part of your body, should be part of it too. Never play me on the mix. They just okay me now, knowing and growing. When the clock in my zone is no sneaking and taking everything now the brother owns. My calling card, recorded and ordered. Supporter of Chessimard, loud and proud. Kicking live, next poet supreme. Loop for truth, bazooka, the scheme.
Flavor,
a rebel in his own mind. Supporter of my rhyme, designed to scatter a line of suckers who claim I do crime. They on my time, dig it.
Hey, yo, Chuck, I think we taking shots.
Singular. We wear black wranglers, we're rap stranglers. You can't angle us.
listen to us. We're on a mission, y'all.
Yo, Chuck. Yo, yeah, man. Yo, you got them running scared, man.
Terminator X. Terminator X. Terminator X. Kill the Terminator. Come on. And plain, give me the lane. I'll throw it down your throat like Barkley. You see my car keys, you'll never get these. They belong to the 9-8 posse. You want some more, son? You wanna get some? Bum rush the door of the store, pick up the album. You know the rhythm, the rhyme, plus the beat is designed so I can itch your mind, boys. Bring the noise, my time. Step aside for the flex, Terminator X.
Yeah, that's right. This jam is ready to come, Medina, boy. That's right, come, Medina. That's right. We showing up in EFFECT, other known as Effect. You understand what I'm saying?
Yeah, boy.
Bring that back one more time.
Bring
Chuck.
That beat back,
bring
man.
Bring that beat back. Bring the beat back.
Y'all want to hear that beat, right? Bring that beat back.
Bring that
one,
shit back.
1, 2, 3, 4, hit it.
Rebel Without a Pause, hey, c'est Public Enemy, une chanson en hommage aux Black Panthers.
Et oui, après avoir parlé des éditions Premier Matin de Novembre, ça s'imposait. C'est l'occasion de vous parler de la sortie du deuxième volume de Hip Hop Family Tree. J'avais parlé de la sortie du premier volume dans Canal Bull, hein, la chronique BD que j'essaye d'animer un lundi sur deux quand c'est pas férié dans le magazine de Canal Sud.
Il y en a beaucoup là.
Alors Hip Hop Family Tree, c'est un projet du dessinateur Ed Piskor ou Pixor. Je voudrais pas quand même non, c'est ça, Ed Piskor, je ne voudrais pas écorcher son nom.
C'est un Français.
C'est un Américain, c'est un dessinateur de comics indépendant qui s'est lancé dans une histoire du hip-hop, alors essentiellement la musique, mais aussi le graffiti, la danse, etc. La danse, ouais. Voilà. Comment ?
Le DJing.
Le DJing, bien sûr, bah ça fait partie de la partie musicale, évidemment, qui se paye la part du lion. Alors, c'est un travail graphique extraordinaire, hein, je ne vous refais pas le topo, vous avez qu'à aller réécouter la première chronique de Canal Bull où je parlais en détail du premier tome, mais figurez-vous que le deuxième tome vient de sortir. Alors, le premier tome, c'était les années, on va dire, les années 70, hein, le tout début du mouvement hip-hop qui ne s'appelait pas encore comme ça. Ça s'arrêtait en 81, et là, le deuxième tome qui vient de sortir aux éditions Papa Guédé couvre les années 81 à 83. Il faut encore une fois souligner le magnifique travail d'éditeur, hein. C'est vraiment un très très beau bouquin, indispensable à tous les fans de rap, et à mon avis tout à fait recommandable aux autres aussi. Alors, y a quand même une petite histoire justement à propos de Public Enemy, qu'on retrouve page 56 de ce deuxième tome de Hip Hop Family Tree. On voit le jeune Chuck, alors ça, en l'occurrence c'est Chuck D, hein, celui qui va devenir Chuck D, donc un des leaders de Public Enemy évidemment, et il est en train d'afficher des... Voilà, il est en train d'afficher dans le Bronx à New York, et il est en train de mettre des portraits de Malcolm X pour en soutien à une promo pour une soirée qu'il organise. Et là, un jeune arrive et dit: mais c'est qui ce Malcolm 10, ce Malcolm 10? Il prend le X pour un 10. Et là, le Chuck D dit: mais c'est incroyable, les frères ont déjà oublié, ça fait même pas 20 ans, on peut pas laisser faire ça. Et évidemment, la suite, ce sera la naissance de Public Enemy, mais pour le moment ça mûrit, car Public Enemy, ça naît un peu plus tard, ce sera dans les tomes à suivre de ce Hip Hop Family Tree. Voilà, que je vous recommande chaleureusement aux éditions Papa Guédé. Ça coûte quand même 26 boules le chaque volume, mais enfin en l'occurrence là, si vous êtes un peu fan de hip hop, vous regretterez pas de les mettre.
Public Enemy pour ce qu'on a appelé le début du rap conscient.
Ouais, c'est pas les seuls à être à l'origine du rap conscient. Non. D'ailleurs, on en parle, hein, dans ce deuxième tome, on voit, ça y est, les précurseurs du rap conscient qui commencent à arriver, à se mettre en place. Au début, c'était plutôt un truc pour ambiance ambiancé hein, pour faire la fête, le hip-hop. Et pour bon, il y avait les battles évidemment, on se renvoyait des on se clashait comme ça par rap interposé. Mais déjà commence à arriver la prise de conscience que le rap peut servir aussi à exprimer des opinions politiques.
Ouais, à la base c'était juste pour accompagner le break avec les fameux MC quoi, les maîtres de cérémonie qui étaient aux platines et au micro en même temps quoi.
Exactement. Et alors c'est déjà plus le cas là au début des années 80. Les MC sont déjà nombreux et ils sont séparés des DJ. Ouais. Mais par contre c'est encore les DJ les stars. Et c'est dans ce début des années 80 là, ça y est, on voit avant 83 que ça y est, les MC commencent à devenir les vraies vedettes et les DJ commencent à arriver au second plan.